Bonsoir, chers auditeurs. Nous nous retrouvons presque comme tous les mardis, enfin un mardi tous les 15 jours. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'avantage de recevoir deux auteurs qui sont en même temps présents dans ce studio pour leur dernier livre et deux livres qui m'ont passionné, qui m'ont intéressé. Un premier qui est un livre d'histoire. Alors, les auteurs qui sont devant moi s'appellent Jean-Fred Varlin, docteur de son état, mais en plus de cela, docteur en médecine, mais docteur en histoire, et qui a écrit un livre en particulier sur le prince de Carignan, qui est un livre que j'ai là entre mes mains, qu'il m'a dédicacé très gentiment, et dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis, Marc Desobliaux, un vieil ami.
Oui.
Bonsoir. Oui. Et Coup de chaleur à Franche-Terre, juillet 1830. Donc, c'est un roman qui est paru à l'Arbatan. Le prince de Carignan est paru aux éditions Amaltée. Mais je vous donnerai toutes les références tout à l'heure. Donc, ce roman historique est un vrai roman historique. C'est-à-dire que il m'a passionné. Il est fort bien tourné, fort bien écrit. Et il raconte à travers l'histoire d'une famille et de quelques héros, et d'un héros en particulier, et il raconte l'histoire du royalisme français au XIXe siècle.
Oui,
de Charles X jusqu'au comte de Chambord et jusqu'à la mort du comte de Chambord. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que sous cette forme romanesque, qui est au fond profondément historique, on revit les sentiments. On ne se contente pas des événements, mais on revit les sentiments des acteurs de cette période. Alors, je commence par vous, docteur.
Si vous voulez,
Jean-Fred Varlin. Et alors, pourquoi avoir écrit sur le prince de Carignan et avoir présenté votre livre en plus à la Sorbonne? C'est-à-dire que vous avez, si j'ose dire, tous les culots.
En effet.
Et j'ai lu le livre, et le prince de Carignan n'est pas spécialement édifiant.
Absolument. Vous avez raison, ce n'est pas un héros, même si c'est le mien. Mais je l'ai choisi parce que d'abord, j'aime beaucoup le XVIIIe siècle. J'ai écrit trois livres, qui tous les trois se passent au XVIIIe siècle. Le premier étant d'ailleurs publié chez l'Harmattan. Et ce prince de Carignan...
Alors, expliquez qui c'est, s'il vous plaît, pour nos auditeurs.
Si je dis que c'est un prince du sang italien, j'aurais pratiquement résumé la question. Michelet disait, paraît-il, à ses élèves, « Messieurs, l'Angleterre est une île. Maintenant, vous en savez autant que moi sur l'Angleterre.
Eh » C'est Siegfried qui disait cela à ses élèves de Sciences Po.
Je croyais que c'était Michelet.
Non, c'est André Siegfried, d'après ce que je crois savoir.
Peut-être qu'il a paraphrasé Michelet. Oui. Mais bon, donc, je m'intéresse au XVIIIe siècle, et ce prince est un prince du sang italien, avec toutes les qualités...
Donc c'est un Savoie.
C'est un Savoie, c'est le fils de Emmanuel Philibert de Carignan, qui avait la particularité d'être sourd-muet, et qui a eu cet enfant très tard. Il avait 62 ans quand son premier fils est né, mais a priori, du fait de sa surdimutité, qui avait d'ailleurs été traitée et corrigée à la dure par des Espagnols,
il arrivait à écrire,
à comprendre et à parler. Enfin, l'ambassadeur vénitien parlait de mugissement, mais il arrivait à parler. Mais toujours est-il qu'il s'est marié très tard parce qu'il était lui-même le fils de Thomas de Carignan, qui était le premier prince de Carignan, qui lui-même était le fils de Charles-Emmanuel Ier. Il faudrait que si on était à la télévision, je vous montrerais un arbre généalogique. Mais ce Emmanuel Philibert, son père, avait un frère qui s'appelait Eugène Maurice, et sa mère, Marie de Bourbon, qui était une princesse française importante, une condé, avait une préférence nette pour son fils cadet, parce qu'il était normal. Elle a donc beaucoup négligé le premier, jusqu'à ce que le fils d'Eugène Maurice, qui s'appelait Louis Thomas, fasse ce qu'on appelait une mésalliance, ce qu'on appelait à l'époque un mariage disproportionné, puisqu'il a épousé une demoiselle qui s'appelait Uranie.
Morganatique.
Morganatique, oui. Mais non, là, il l'a épousé pour de vrai.
Il l'a épousé pour de vrai.
Mais ça a été très mal perçu par sa mère, qui était Olympe Mancini, la nièce de Mazarin, par sa grand-mère, Marie de Bourbon, et même par sa tante, qui était Louise de Bade. Et ces trois femmes se sont réunies pour le persécuter, pour surtout le déshériter. C'est très bien décrit par Madame de Sévigné, l'exhérédation du prince Louis Thomas. Et du coup, comme la succession devait passer à cette branche cadette Louis Thomas, la grand-mère s'en est beaucoup émue, et pour éviter ça, elle s'est tout à coup avisée de marier son fils aîné, qui avait déjà 56 ans, et qu'on ne pensait pas du tout à le marier. Et tout à coup, on lui a trouvé une épouse qui s'appelait Angélique d'Est, qui était de la famille de Modène. Et il s'est marié d'autant plus que lui était très pro-Habsbourg, Victor Amédée II aussi, mais on ne le savait pas encore. Et Victor Amédée II venait d'épouser une princesse française, la fille de monsieur, Anne-Marie de Bourbon. Et donc, Emmanuel Philibert, qui était donc un austrophile averti, et très, très sûr de lui, très convaincu, a eu peur que ça se... comme du temps des régences de Jeanne Baptiste et de Christine, la sœur de Louis XIII, auparavant, le Piémont soit un petit peu vassalisé par la France, ce qu'il ne voulait pas du tout. Donc, il s'est marié contre l'avis de Louis XIV, qui lui a confisqué provisoirement tous ses biens en France. Il s'est marié avec cette Angélique de Modène, et il en a eu plusieurs enfants, dont le héros, entre guillemets, Victor Amédée.
Et alors, oui, à l'époque, il faut bien se rendre compte que les Savoies avaient quitté l'Alliance française et, dans toutes les coalitions du temps de Louis XIV, avaient pris le parti opposé à la France. Et ce qui fâchait beaucoup Louis XIV, évidemment, parce que ce n'était pas la tradition...
Non, ce n'était pas la tradition intérieure. Il faut reconnaître que ce n'est pas tout à fait exact, dans la mesure où Victor Amédée II, disait-on, ne commençait jamais une guerre dans le même que celui
où il l'a fini.
Il changeait beaucoup. Et par exemple, pour la guerre de la Ligue d'Augsbourg...
En fait, il cherchait son intérêt.
Il avait commencé dans le camp autrichien, puis grâce à la médiation de sa maîtresse, Madame de Véru, et du maréchal de Tessé, il avait changé de camp. Il avait même fait épouser sa fille, Maria Adélaïde, la mère de Louis XV, elle ne l'était pas encore, au duc de Bourgogne. Donc, il était revenu dans le camp français. Et puis en 1703, il est revenu dans le camp autrichien. Enfin, il était très sinueux dans ses alliances, mais finalement, ça lui a réussi, puisque, in fine, à la paix d'Utrecht, il est devenu roi de Sicile.
Oui.
Et il a agrandi son territoire. Enfin, c'est
à ce moment-là qu'ils ont occupé la Sardaigne également.
Il a été obligé de changer, d'échanger la riche Sicile contre la pauvre Sardaigne, parce que Charles VI voulait absolument être roi des deux Siciles. Il avait déjà Naples. Mais enfin... Il a quand même gagné au change, il a bien mené sa barque, en louvoyant beaucoup, mais c'était un prince sûrement très intelligent, on l'appelait le renard de Savoie.
Oui.
Il était plus intelligent que son gendre, puisque donc Victor Amédée de Carignan, ils s'appelaient tous Victor Amédée ou Charles-Emmanuel.
Oui, comme chez les Savoies, ou Philibert.
Oui, ils n'ont pas beaucoup d'imagination des prénoms, mais les Français s'appelaient tous Louis. Mais enfin, ce Victor Amédée avait épousé la fille adultérine de Victor Amédée II, qui s'appelait la maîtresse s'appelait Madame de Véru, et la fille qui a été légitimée, Victoire Françoise de Savoie.
Ce qui lui donnait un rang.
Ce qui lui donnait un rang supplémentaire, parce qu'il était déjà le premier prince du sang. Était séparé pendant toute son enfance. C'est pour ça qu'il a été bien éduqué, pas par son père qui était trop vieux, qui s'y intéressait pas, mais le duc de Savoie pensait que ce serait son héritier, d'autant plus qu'il a été très malade, le duc de Savoie, il a eu la variole dont il a failli mourir en 1692, le prince de Carignan en est en 1690, et on peut dire que il a fait trois guerres, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de succession de Pologne, et la guerre de succession d'Autriche à peine, parce qu'il est mort au tout début, mais enfin celle où il a joué le rôle, la guerre de succession d'Espagne aussi, la guerre où il a joué le rôle le plus important, c'est celle où il avait 3 ans, parce qu'il était supposé être otage il avait été fortement envisagé qu'il aille en France, en même temps d'ailleurs que Marie Adélaïde, comme otage pour garantir l'acquisition de Pignerol par son oncle.
Alors, venons-en à notre prince à nous, parce que c'est vous tracez un portrait de ce personnage qui est tout à fait typique, me semble-t-il, de ce qu'était, malheureusement, d'une certaine manière, une certaine haute noblesse au XVIIIe siècle français. Oui. Donc, il a fui la Savoie.
Oui.
Il a quitté ses rangs de prince, héritier. Il a quitté sa femme, il a abandonné sa fille. Et il est venu s'installer en France.
En France, à Paris, à l'hôtel de Soissons.
À l'hôtel de Soissons, qui était un hôtel particulièrement...
Oui, qui avait été l'hôtel de Jean de Bohème au Moyen-Âge, puis du duc d'Orléans. Puis qui était racheté par Catherine de Médicis, c'est-à-dire il reste tout ce qui reste, c'est la colonne de la reine.
La fameuse colonne qui se trouve à côté la Bourse du Commerce.
Voilà. Oui. C'est plus la Bourse du Commerce, maintenant c'est.
C'est
Vuitton qui a fait
de ce qui était autrefois la Bourse du Commerce.
C'était la Halle au Blé, puis la Bourse du Commerce, et c'est devenu un atelier d'art, enfin un peu comme celui qui est dans le Bois de Boulogne.
Et on prétendait que la Médicis montait à l'intérieur pour consulter les astres.
C'est ça, on prétendait que la Médicis a quitté le Louvre parce que son astrologue Cosme Ruggieri lui avait dit qu'elle mourrait tout près d'un Saint-Germain. Et donc elle voulait pas rester à Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est pour ça qu'elle est partie là-bas. D'accord. Et pour la petite histoire, elle est morte à Blois. Mais le prêtre qui l'a confessé s'appelait Monsieur de Saint-Germain.
Voilà. Comme quoi.
On n'échappe pas à son destin.
Alors, parlez-nous de notre prince de Carignan, héros de votre livre, qui est une figure intéressante, parce que ce n'était pas des gens nuls. Il était artiste, il avait du goût.
Absolument.
Mais il
n'avait pas une morale sans faille.
Et comme il avait beaucoup de loisirs et des revenus. Alors, racontez-nous qu'il dépensait de façon excessive, de telle sorte qu'il avait beau avoir énormément de revenus, il avait encore plus de dettes.
C'est arrivé d'ailleurs à sa petite fille, Victoire de Guéménée, c'était la fille de sa fille. Sa fille Anne de Carignan a épousé le prince de Soubise. Ils ont eu cette mademoiselle de Guéménée, qui également, avec des revenus phénoménaux, a réussi à faire une banqueroute abominable. Oui. Alors lui, effectivement, il a quitté, je le racontais avant l'émission, il a quitté Turin, où il était pourtant très choyé, où il avait une vie qu'on peut qualifier de agréable, qui se passait uniquement en réception, en bal et en plaisir multiple sur lequel je n'ose intervenir, et où il avait une belle pension, mais il était déjà poursuivi par ses créanciers. Il y avait en particulier deux banquiers de Turin, qui étaient les frères Facio, qui se sont fait naturaliser français pour le suivre en France, parce que sinon il y avait la loi d'Aubaine.
Mais c'était très bien porté au XVIIIe siècle. Beaumarchais.
Oui, absolument. Mais donc il a tout plaqué pour essayer d'échapper à ses créanciers, et aussi parce qu'il trouvait que la pension allouée par son beau-père était modeste, et il est venu habiter l'hôtel de Soissons, qui était effectivement un hôtel extrêmement vaste, qui est presque vaste comme le Louvre aujourd'hui.
Il était situé où dans Paris?
Il était situé là, rue Coquillère, actuellement dans au Halles.
Voilà.
Place des Deux Écus, je crois que la Place des Deux Écus existe encore. Oui. En fait, c'était un très grand quadrilatère.
Avec un jardin, comme on disait.
On disait jardin, mais c'était un parc, effectivement. Oui. Oui. Il en a vendu une partie à un architecte. Mais le régent s'y est opposé. Et très souvent, il a dû proposer de vendre ou son jardin. Le jardin, il l'a vraiment vendu, mais il était mieux de le racheter avec un emprunt qu'il a fait d'ailleurs à John Law.
Vous allez nous parler de cette affaire.
Oui,
parce qu'il était très lié avec Law.
Il était très lié avec Law. Il a beaucoup gagné dans le système de Law. C'est une des raisons pour lesquelles il s'est enrichi.
C'est pas le seul d'ailleurs.
Pas le seul, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont perdu.
Il y en a d'autres qui ont perdu, parce que
effectivement,
dans ce genre de loterie...
Le prince de Condé et le prince de Conti ont gagné, beaucoup de gens qui ont été moins chanceux. Mais enfin, le prince de Carignan faisait partie des heureux happy few qui ont gagné, et en plus, il a plus que gagné avec le système de Law, parce que Lot avait d'abord installé ses boutiques rue Quincampoix, et les gens se sont plaints parce que ça faisait bazar, beaucoup de bruit, etc. Ensuite, c'était place Vendôme, et là, le chancelier d'Aguesseau, qui habitait l'hôtel de Vendôme, s'est également plaint de mal dormir parce qu'il y avait trop de bruit. Et donc, lui, le prince de Carignan, a très aimablement
offert
le mot est à mettre entre guillemets, loué son jardin pour y installer 138 boutiques. Les mémorialistes du XVIIIe siècle racontent très bien ça, Buvat, Marais, Saint-Simon, surtout Barbier.
Saint-Simon,
Saint-Simon n'aimait pas beaucoup
Carignan. Non, il n'aimait pas Carignan.
Mais personne ne l'aime. Les mémorialistes, il n'y en a pas un qui en dise du bien. Même Barbier, qui est très plat, enfin neutre, lui envoie quand même quelques coups de griffe. Enfin, il avait mis 138 boutiques dans le jardin de l'hôtel de Soissons, et
qui devait une redevance.
Chacun le payait, c'était de les louer très cher, on disait que c'était comme les petites maisons, c'est-à-dire l'asile de fous, à cette différence près que dans les petites maisons, les fous étaient à l'intérieur et les visiteurs à l'extérieur, et que là, c'était le contraire.
Alors, si je comprends bien, Carignan est arrivé en France à la fin du règne de Louis XIV.
Non, un peu après, sous la Régence, en 1718.
Voilà, donc sous Louis XV et sous la Régence.
Oui, sous la Régence.
Est-ce qu'il s'entendait bien avec le régent?
Je crois que par affinité de goût, disons poliment, il était assez acolyte du régent et de Dubois.
C'est ça.
Il écrivait beaucoup à Dubois. Il a écrit, en décembre 18, il a écrit une lettre par jour à Dubois pour essayer, parce que, comme justement son beau-père était
Dubois,
très mécontent.
Dubois, il faut ça pour nos auditeurs, c'est le fameux cardinal.
Oui, c'est le fameux.
Mais qui était cardinal comme...
Comme moi.
Je n'ose dire. Docteur,
moi, je ne prétends pas. il a beaucoup tenu à être cardinal, et il l'a obtenu. Et le cardinal Dubois avait une certaine indulgence pour Carignan.
Puisque lui-même fricotait de la même façon.
Oui. Il était l'amant de Madame de Tancin, on peut le dire maintenant, mais ce n'est plus une indiscrétion. Mais le cardinal Dubois, l'oncle et beau-père Victor Amédée II, très mécontent du départ furtif de son fils qui a tout plaqué un beau jour pour revenir en France, dont il connaissait mal la langue et ne n'avait pas d'amis, il est arrivé à l'hôtel de Soissons, Victor Amédée II avait demandé au régent de faire en sorte que, surtout, il n'aille pas à la cour et qu'il soit encore moins présenté à Louis XV.
Et c'est pas ce qui s'est fait.
C'est pas du tout. Trois semaines après, il était à la cour et présenté à Louis XV.
Et Louis XV, qui à l'époque avait...
Il avait 8 ans.
8 ans, voilà. C'est ça,
Mais enfin, ensuite, il est devenu assez ami avec Louis XV. Il faut reconnaître que sa mère, donc, étant la demi-sœur de la mère de Louis XV, c'est sa tante, et Louis XV a perdu toute sa famille en 1711 et 1712, donc sa mère, son père, son frère, il manquait de famille. Il avait le roi d'Espagne qui était son oncle, il avait
Il était apparenté à toutes les familles royales.
Victor Amédée II était son grand-père, apparenté à tout le monde. Enfin, à Paris ou à Versailles, puisqu'il est revenu à Versailles après son sacre en 22, il n'avait pas beaucoup de famille. Et donc, cette tante tombée du ciel, qui était très intrigante, Madame de Carignan était sûrement plus intelligente que son mari, mais très intrigante, elle servait d'espionne à Victor Amédée II, qui avait beaucoup d'espionnes en France. Il avait entre autres aussi Madame de Varins, que Rousseau appelait maman.
Oui, Madame de Varins qui donnait des fessées
à Rousseau.
À Jean-Jacques, et qui adorait ça.
Absolument. Mais donc, il est venu en France et il s'est installé. Donc, après son court exil à Sens, ça se comptait en heures pratiquement, il s'est installé à la cour et il a mené le grand train à l'hôtel de Soissons, où il logeait des architectes, des musiciens, des...
Voilà. Alors, parlez-nous de cette partie-là, parce que, bon, très bien, on voit que c'est un homme de plaisir,
mais
c'était quand même, un ami des artistes. C'était pas forcément un artiste lui-même, mais quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, c'est quand même intéressant de voir comment, à l'époque, eh bien, Rameau a eu ainsi un mécène. Enfin,
oui,
et puis, c'est pas le seul. Ils ont été plusieurs à vivre un peu au crochet de...
Absolument, vous avez raison.
Au crochet de Carignan.
Il aimait beaucoup les arts.
Donc, même si le monsieur n'était pas très respectable, monsieur rendait des services malgré tout par l'état social qu'il occupait.
Absolument.
C'est important parce que ça explique très bien cette société d'Ancien Régime que l'on ne comprend plus du tout aujourd'hui.
Oui. Absolument.
Et c'est pas parce qu'un homme est dépravé ou d'apparence dépravée qu'il est nécessairement inutile à la société.
Non, absolument pas. De même que le prince de Conti avait longtemps hébergé à Pézenas Molière, lui a été effectivement le mécène de beaucoup de musiciens. Il aimait bien les arts plastiques, peinture, sculpture et glyptique. Je ne suis pas sûr qu'il payait les tableaux. Il avait, j'ai vu dans son inventaire après décès, bien qu'il aimât beaucoup la musique, il n'avait pas d'instrument de musique sauf une harpe, mais j'ai pas trouvé de piano ni de violon chez lui.
La question que j'allais vous poser, est-ce qu'il était lui-même
pratiquant, non, je ne crois pas, enfin en tout cas il n'est pas, en dehors d'une harpe qui est...
En revanche, il avait beaucoup de goût.
Oui, il avait beaucoup de goût.
Il avait un goût très sûr, c'est-à-dire que...
Absolument.
Par exemple, c'est lui qui a soutenu... Le premier opéra de Rameau.
Oui, absolument. Hippolyte Arici.
Hippolyte Arici, et il a fait le nécessaire pour que... Alors, il n'était pas un bon gestionnaire.
Oui, non.
Donc, il... malheureusement, l'opéra sous sa direction perdait de l'argent plutôt qu'il en gagnait.
C'est vrai, mais c'était vrai avant lui et après lui.
Ça a toujours été vrai.
C'est comme la faillite des finances françaises, on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un de président. Sauf peut-être Fleury qui a réussi à les relever.
Oui.
Mais depuis, ils ont souvent été en piteux état.
Oui.
Bon. Mais oui, il aimait bien les arts plastiques, je veux dire, et dans son inventaire après décès, on trouve peu d'instruments de musique en dehors d'une harpe, qui, à mon avis, devait plutôt être jouée par une dame. Mais, en revanche, il avait énormément de tableaux, et des tableaux des Véronèse, des Rubens, des Bassano, des tableaux extraordinaires. Je ne sais pas s'il les payait, mais enfin, ils ont tous été dispersés.
Bon, je ne pense pas qu'il les payait.
Je ne suis pas certain, mais enfin, ils étaient là. Il y en avait, j'avais calculé, je ne me souviens plus, mais... Certains valaient 10 000 livres le tableau, et je crois que l'ensemble valait 500 000 livres. Il avait deux collections importantes, il avait de ses beaux meubles, de la belle vaisselle, mais surtout des tableaux de grands maîtres. Il avait des Vinci, mais pas de Raphaël, je crois. Mais il avait un Michel-Ange, il avait beaucoup de choses.
Comment les avait-il acquis, ces tableaux?
Je pense chez les marchands merciers de Paris, chez Gossin et d'autres, chez Gersin, je veux dire, et d'autres. Mais enfin, je pense qu'il les avait acquis, peut-être contre de l'argent.
En empruntant.
En empruntant, il empruntait beaucoup. La liste de ses créanciers, que je n'ai pas, qui se promenaient dans tous les milieux sociaux, est extrêmement intense. Il y avait des maîtres paveurs, des marchands de foin, des marchands de vin, et il y avait le maréchal de Noailles, Mathieu Mollet, le maréchal de Breuil. Enfin, ça allait du plus petit au plus grand, mais tout le monde lui a prêté de l'argent, et les gens sont souvent naïfs.
Il devait être très convaincant.
je ne sais pas comment il faisait, mais enfin, il avait des procès. Les archives nationales sont pleines, et c'est même très fastidieux, mais j'ai lu tout ça, sont pleines de procès qu'il a avec à peu près tout le monde, avec le chanoine de Carignan dont je parlais tout à l'heure, avec ses créanciers multiples, avec ses fournisseurs, c'est épouvantable, il était en procès permanent. Mais bon...
Vous devriez faire un deuxième volume avec tous ses créanciers.
Il serait beaucoup plus épais que le mien. Rien que la liste de ses créanciers serait un peu fastidieux, mais effectivement, pour les ranger par ordre alphabétique, mais il y en avait vraiment beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, oui, il aimait beaucoup les arts, il aime beaucoup la musique, surtout la musique italienne.
Oui.
Et il a proposé plusieurs fois au régent, et ça a failli marcher, d'organiser une grande salle de concert dans son hôtel. Il s'était arrangé d'ailleurs avec l'Opéra de Londres, où il y avait notamment deux très grands auteurs qui étaient Handel et Bononcini.
Oui.
Et il a fait venir un grand nombre d'instrumentistes, de flûtistes, de violonistes, etc., et de cantatrices, surtout cantatrices, mais peut-être aussi des chanteurs.
Oui, oui, il était...
préférait les cantatrices.
Oui, il préférait les cantatrices, oui.
Moi aussi. Mais bon, et il aimait beaucoup la musique italienne, mais malgré tout, il y avait une grande querelle des bouffons, etc., une grande animosité entre la musique italienne et la musique française, mais il ne négligeait pas la musique française, la preuve avec Rameau. Et il a, alors je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, l'anecdote, parce qu'elle est amusante, que l'abbé Pellegrin, qui était un librettiste très connu, alors que Rameau a commencé sa carrière très tard, à 50 ans, il était totalement inconnu, et l'abbé Pellegrin l'a rencontré à l'hôtel de Soissons chez Carignan, et lui a dit, Monseigneur, non, je n'ai pas dit Monseigneur, il fallait dire, Monsieur, je veux bien faire le livret de votre... votre opéra, mais je ne veux pas perdre de l'argent, il faut que vous me donniez une lettre de change. Et Rameau s'est exécuté, et ensuite il a exécuté les premières mesures de son opéra, et Pellegrin était tellement enflammé, enthousiaste,
qu'il a déchiré,
il a déchiré la garantie en disant, monsieur, quand on fait une musique pareille, on n'a pas besoin de garantie, voilà. On n'a pas besoin de caution. Voilà. Donc il aimait beaucoup la musique, et alors, il y avait quelques mécènes, lui mérite tout à fait ce nom, quelques mécènes à Paris, il y avait le frère Croizat, parce qu'il y avait deux Croizat, Croizat l'aîné, qui est le plus connu, et son frère qui s'appelait Pierre, et son frère qui s'appelait Antoine, et son frère s'appelait Pierre. On l'appelait par dérision Croizat le pauvre, mais en fait il n'était quand même pas si pauvre que ça. Il avait aussi de très lui était un grand collectionneur de tableaux et un grand recruteur pour le régent. Il était plusieurs fois en Italie chercher des tableaux pour le régent. Je regarde combien de temps il me reste. C'était donc un grand amateur de musique. Troisième mécène, c'est Madame de Prie, qui est plutôt connue pour sa liaison avec le duc de Bourbon, mais qui était également une grande, et qui elle jouait du clavecin, et qui était une grande amatrice de musique, et qui effectivement a aussi organisé des concerts, je crois les Mélophilettes. Mais enfin, elle a organisé des concerts à Versailles et à Paris.
Alors, comment a fini ce prince de Carignan et comment est-il l'auteur de la branche Savoie qui règne aujourd'hui, il serait censé régner aujourd'hui sur l'Italie, puisque
jusqu'à 46,
les Savoies sont allés jusqu'au bout de leurs ambitions,
absolument.
Malgré le pape.
Le tout dernier, qui s'appelle, je crois, aussi Emmanuel Philibert, je ne connais pas grand-chose de lui, je ne suis pas un lecteur de gala régulier, mais je crois qu'il ressemble pas mal à son ancêtre.
Bon.
Mais enfin, il a été prince du sang, je vous dis, c'est l'essentiel de son activité, mais il était un maillon, puisque son arrière-grand-père, Charles-Emmanuel Ier, avait un fils aîné qui a été Victor Amédée Ier de Savoie, et un fils cadet qui s'appelait Thomas, à qui il a donné la principauté de Carignan, qui n'était pas le Carignan des Ardennes, dont il a été duc, mais le Carignano autour de Turin. Ouais. Et ce Thomas de Carignan, qui a pratiquement remplacé Mazarin pendant que Mazarin était en fuite, mais sans le savoir, en fait, qui était un général très recherché. Les Carignans ont reçu des pensions extraordinaires de tous les rois, y compris Napoléon. Ça a duré jusqu'en 1810.
Oui.
Mais c'était dû au fait... Il y a eu un traité en 1642, que j'ai eu du mal à retrouver, en 1642, pardon, pour Thomas de Carignan, qui a été débauché du service d'Espagne par Richelieu, parce qu'il pensait que c'était un général extraordinaire. Et il était à Corbie, en fait... Une fois qu'il a été français, il n'a eu que des défaites. Pas de sens. Mais ce Thomas de Carignan donc, a une pension qui a été, par survivance, donnée à ses héritiers et successeurs pendant 200 ans. C'est pas mal. Et ça faisait partie des revenus de Carignan qui avait en plus les revenus de ses nombreux châteaux, dont le duché simple de Carignan, dont il avait des terres à Bagnolet, à Saint-Amand, à Poitiers, j'en oublie beaucoup. Et il y a donc eu le système de l'eau qui l'a enrichi. Et en plus, Il jouait aux cartes et la rumeur dit qu'il avait plus de chance qu'il n'aurait, que le hasard n'aurait dû lui en laisser.
Et comment a-t-il fini ?
Il a fini jeune, parce qu'il est mort à 51 ans, de maladie. On ne sait pas très bien. Son notaire, qui s'appelait M. Bonvin, c'est... Barbier dit qu'il s'est suicidé. En fait, ce n'est pas vrai, parce que j'ai retrouvé des traces de ce Bonvin 10 ans après. Mais enfin, il a cédé son étude. Il a disparu, il s'est noyé, pas dans la Seine, mais dans la nature, à la suite du décès de son client. Parce que je crois que Bonvin était aussi l'un de ses créanciers.
Oui, et donc il s'est trouvé dans une situation délicate.
Il a eu un autre titre de gloire quand même, c'est qu'il a, après la mort de Victor Amédée II, c'est son fils Charles-Emmanuel III, qui est devenu duc de Savoie, roi de Sardaigne, pardon. Parce qu'entre-temps, la Sicile avait été changée contre la Sardaigne.
Piémont-Sardaigne,
absolument. Et il entretenait des relations plus courtoises, plus amicales avec le prince de Carignan que ne l'avait fait son père, à telle enseigne qu'il a été choisi pour épouser par procuration la troisième femme. Charles-Emmanuel a eu trois femmes, qui sont toutes les trois mortes avant l'âge de 30
couche,
ans,
oui.
Ou en couche, ou en tout cas très jeunes.
Oui.
Et enfin, la troisième, c'était la fille du duc de Lorraine, Léopold, oui. Et Elisabeth Charlotte. Et Carignan est allé la représenter, il a fait une grande ambassade avec équipage, chevaux, porcelaine, etc., pour aller à Lunéville, la chercher et la conduire jusqu'à Turin.
Alors, pouvez-vous nous lire en forme d'épitaphe le poème que vous m'avez montré tout à l'heure,
si vous voulez.
Concernant.
Alors, Carignan n'était pas un vaillant militaire. Ce ne fut pas non plus un grand prédicateur. De son incompétence, il ne fit pas mystère. Il n'était point poète et guère explorateur. Il aimait la peinture, aussi la statuaire, mais il ne fut jamais ni peintre ni sculpteur. Car un prince du sang dérogerait peu cher s'il ne se contentait du rôle d'amateur. Prétendant, prétentieux, courant la prétentaine, il ne pouvait pas être un bouillant capitaine. Pour faire oublier qu'il n'était pas courageux et qu'il était criblé, non de coups, mais de dettes, il dépensait beaucoup et il trichait au jeu, ce qui lui permettait de paisibles conquêtes. Il ne lésinait pas sur les dons de diamants. Il savait combler danseuses et actrices de carrosses et de douillets appartements, récompensant de leur vertu le sacrifice. Mais ce fut un mécène, et sa bourse opulente a soutenu Rameau et bien des Italiens. Et peut-être sans lui que les Indes galantes n'eussent jamais paru. Remercions-le donc bien. Ce gai luron de prince aurait pu, c'est bien pire, s'il avait été roi, n'être qu'un triste sire.
Et alors, ça parut où, ça ?
Ça, c'est pas paru.
Oui ?
Non,
vous l'avez trouvé dans
quoi ? Je l'ai lu à la Sorbonne pour m'amuser, mais je le lis ici dans le même but.
D'accord.
Mais ce, non,
c'est vous qui l'avez écrit ?
Ah oui, c'est moi qui l'ai
écrit. C'est vous qui l'avez écrit.
Et c'est moi qui l'ai écrit, mais ce n'est
alors,
pas...
Alors, je recommande auprès de nos lecteurs, donc c'est aux éditions Amaltée, Le prince de Carignan. C'est un prince obéré, mais pas sans intérêt, qui des rois
sans
d'Italie est l'ancêtre imparfait. Donc, du docteur Jean-Fred Varlin, W-A-R-L-I-N, et c'est dans les collections Reflets d'Histoire des éditions Amaltée. Je vous recommande ce livre, moi, il m'a passionné, et ça donne une bonne idée de vous dresser un portrait extrêmement précis de ce que pouvait être... la grande aristocratie, et j'allais dire un peu malheureusement, parce que je pense que ces gens-là n'ont, de leur situation, ils ne voyaient leur place, ils ne voyaient pas ce qui allait venir.
C'est sûr.
Et ils étaient tellement habitués.
Ben oui.
Alors maintenant, je me tourne vers Marc Desoblio. Coup de chaleur à Franche-Terre, juillet... Alors, attendez que je précise, le livre, vous le trouvez évidemment en librairie, hein, à 22,90 €. Voilà. Alors, Coup de chaleur à Franche-Terre de Marc Desoblio, juillet 1830. Là, c'est chez l'Harmattan.
Oui.
C'est d'histoire, mais c'est un roman.
C'est un roman historique, exactement.
Alors, Marc, dis-nous, Comment tu as conçu ce livre et pourquoi? Et moi, il m'a beaucoup intéressé. Bon. D'abord, que je précise à nos auditeurs que ce livre a un premier charme aujourd'hui, c'est d'être très bien écrit. Et vraiment un style de romancier.
Bon.
Oui, on ne trouve plus beaucoup ça. Dans les romans qui sont à l'heure actuelle non seulement cités, mais primés. Oui. À mon avis, le tien, il mériterait d'être primé. Mais bon, je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas à l'Académie.
Non, moi non plus.
Ni l'Académie française. Alors, Marc, dis-nous, ça m'a passionné parce que tu couvres vraiment toute l'histoire, on va dire, du royalisme français à travers une famille au XIXe siècle. Mmh. Donc, on va dire de Charles X jusqu'à le retour de la Révolution, puisque même tu abordes la Révolution française, et jusqu'au comte de Chambord.
Jusqu'au comte de Chambord, oui.
Et exactement. Jusqu'à pratiquement la renonciation du comte de Chambord. Oui. On peut dire que c'est à peu près ça.
Exactement. Alors, ce livre-là, je le porte depuis très très longtemps. Bon, je n'ai pas fait que ça, j'ai une vie aussi, c'est normal. Mais la révolution de 1830 m'a toujours intéressé. Je me suis toujours demandé comment on pouvait réussir le tour de force de perdre son trône en 3 jours, stupidement, parce qu'on ne peut pas le dire autrement, avec des conseillers lamentables.
Oui.
Et voilà. Oui. Donc, effectivement, c'est un récit qui est lent, volontairement. Je dis le terme dans le titre, il y a le terme coup de chaleur, c'est volontaire. C'est-à-dire que la révolution de 1830, c'est un coup de chaleur, puisque c'est une révolution, mais il a fait très chaud.
Il a fait très chaud.
Voilà. Donc, je joue là-dessus. Oui. Donc, la chaleur physique énerve les gens. Bon, la vie se ralentit, bon, ça tourne pas comme on voudrait, etc. Alors, le village de Franche-Terre, je tiens à préciser qu'il se trouve près de Montfort-la-Maurie, et le modèle dont je me suis inspiré, c'est le village des Ménus, parce que mon histoire se passe entre Paris, on va dire la région de Montfort-la-Maurie, la forêt de Rambouillet, qui est en elle-même un personnage dans l'histoire, et Rambouillet, le château où Charles X s'est retiré devant la révolte qui grandait de plus
après
en plus.
Après sa renonciation.
Voilà, exactement. Et à Paris, on a le duc d'Orléans qui fait son apparition. Et je me suis inspiré d'un fait réel qui n'a jamais été expliqué. C'est que le duc d'Orléans, donc futur Louis-Philippe Ier, a envoyé un message à Charles X à Rambouillet par un cavalier. Ce message n'est jamais arrivé à Rambouillet et on n'a jamais su ce qu'il y avait dedans. Donc, ça fait partie du livre. Alors là, j'ai brodé dessus. Alors, effectivement, c'est un tournant très important de l'histoire de France. Parce qu'au fond, Charles X aurait pu, il était âgé, avoir une fin de règne paisible, sans chercher à faire des histoires comme ça. Et il a voulu absolument... Je ne veux pas parler trop longtemps de lui, mais il était comme tous les gens de cette époque, ils étaient tous terrorisés par la Révolution française, qui n'était pas loin, en fait, hein, quand on y pense.
Bien sûr, et puis qu'il avait vécu.
Et qu'il avait vécu, donc ils avaient tous peur de finir comme leurs frères.
C'est ça.
Et ça se sentait, enfin, ça se comprend.
Alors, il n'a pas... Enfin, je te dis une petite chose en passant, moi, son dernier voyage en province, c'était en Alsace.
Oui.
Il a été acclamé et il n'a pas su faire ce que son frère Louis XVI aurait dû faire.
Mmh.
C'est-à-dire, dans un cas pareil, ce que faisaient les Valois, ce que faisaient les premiers Capétiens, c'est qu'ils faisaient la tournée des popotes. C'est-à-dire, ils allaient en province parce que là, ils savaient qu'ils trouveraient un appui populaire.
Exactement.
Et Louis XVI, d'ailleurs, en Normandie, s'il avait voulu, il aurait... C'était pas aux nobles de Vendée ou aux nobles de Provence de se lever, c'était à Louis XVI de faire se lever les populations entières et de se mettre à la tête.
Exactement.
Enfin, à mon avis.
Mais
ils n'ont pas su faire.
Non.
Et Charles X non plus n'a pas su faire.
Non.
Et les conseillers ont été absolus.
Lamentables.
Sauf quelques ministres.
Oui, mais enfin...
qui eux avaient de l'esprit, d'ailleurs, qui se rendaient compte que...
Ah ben,
tout
partait à volo.
Tout partait à volo.
Oui. Alors, effectivement, au centre de l'histoire, j'ai mis donc ce petit village, qui n'est pas bien grand, qui vit paisiblement Même si on rencontre dans ce village des courants différents, il y a des bonapartistes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu, il y a des républicains.
Il y a
aussi
des républicains qui se cachent plus ou moins.
Voilà, mais enfin, bon, il y a des orléanistes. Le maire, qui est poussé d'ailleurs par le château, par le châtelain de la famille de Jarzé, comme je l'appelle, le maire est plutôt orléaniste, mais il ne le dit pas parce qu'il sait qu'il doit sa place au châtelain qui, lui, est légitimiste. Enfin, j'en place mot là, il n'était peut-être pas employé à l'époque vraiment.
C'est des situations qui se sont retrouvées dans beaucoup de villes de France.
Exactement, exactement. Donc, tout le monde se taisait, tout le monde vivait bien. Et donc, la famille d'Ossier de Jarzé, qui a le château, j'ai pris le modèle du château des Menus d'ailleurs pour mon livre, il reste encore le seigneur un peu à l'ancienne, mais pas complètement. Parce que les châtelains...
Ils sont revenus après la Révolution.
Alors, ils sont partis à la Révolution en émigration, ils sont revenus. Le père du châtelain de l'époque avait été à Paris... essayer de sauver Louis XVI au moment du 10 août, et il est revenu.
On fait beaucoup, comme Charette a fait.
Exactement. Donc, c'est une famille qui est restée dans la tradition monarchiste, des rois légitimes, on va dire. Il a aussi une femme qui n'est pas piquée des hannetons, on va dire ça comme ça, elle est extrêmement volubile, romantique, ultra, on peut le dire. Elle part dans tous les sens. Enfin bon, et puis de temps en temps, elle se permet sans doute des petites choses. Bon, je n'insisterai pas dessus. C'est comme pour vous. Et là-dedans, il y a le fils, Amédée, qui a 12 ans, qui brûle de servir le roi. C'est son grand truc.
Ça arrive chez les fils de famille.
Oui, ça peut arriver, exactement. Et donc, le livre ne s'ouvre pas comme ça, mais un des premiers chapitres du livre, c'est ce cher Amédée, qui connaît la forêt de Rambouillet comme sa poche, et qui part à cheval, et qui veut aller assister à la chasse du roi. Donc il y va, il trouve la chasse, il se renseigne dans la forêt, et donc il rencontre le Charles X, il rencontre la duchesse d'Angoulême, la duchesse de Berry, enfin bon, voilà. Et donc, toute cette histoire va tourner, au fond, alors, c'est un basculement parce que ce jeune garçon s'aperçoit que, il comprend pas très bien parce qu'il est quand même jeune encore, mais il se rend compte qu'il vit un moment où ses certitudes sont plus si certaines que ça. Mais il reste quand même dans son idée, je sers le roi, plus tard je serai militaire, voilà. Et le père de ce garçon est plutôt un royaliste ouvert, qui ne veut surtout pas aller à Paris. On le lui reproche d'ailleurs. Hein. Il fait beaucoup dans l'agriculture, dans toutes ces choses-là.
Comme ça s'est fait beaucoup au 19e siècle. L'aristocratie a consacré beaucoup de temps.
Voilà, exactement. Il comprend, lui, que un des grandes faiblesses de la monarchie, de la Restauration en tout cas, c'est le manque de gens pour voter, pour élire des députés. Et je pense que ça, à mon avis, il avait raison. Parce que le roi se serait appuyé sur une majorité solide.
Bien sûr.
Évidemment, c'était plus du tout pareil.
Bainville explique très bien dans son Histoire de France que si ça avait été la Restauration qui avait instauré le suffrage universel...
Exactement.
Le suffrage universel, en particulier par les femmes, aurait fonctionné à fond en faveur de la monarchie.
Exactement.
De la royauté, bien sûr.
Donc lui, il le comprend, elle ne le comprend pas, mais ça fait rien.
Et les bourgeois étaient orléanistes, volontiers francs-maçons et anticléricaux dans le fond du cœur, parce qu'ils en avaient marre de l'influence de l'Église.
Voilà. Alors, dans tout ce petit monde-là, arrivent deux personnages que je me suis amusé à introduire. Il y a d'abord le notaire Louis Hérard, qui est notaire à Paris, et qui se trouve être le notaire de la famille royale.
Oui.
Bon.
Il y a un mystère.
Il a un mystère, je ne dévoilerai pas ici.
Non, on ne va pas le dévoiler.
Il a un mystère, mais s'il vient là, ce n'est pas tout à fait par hasard, parce qu'il est quand même assez inquiet, donc il vient se mettre à l'abri. Ses parents, officiellement, sont les régisseurs du château. Donc il a bien mené sa barque pour se retrouver notaire à Paris et en plus de la famille royale. Bon, j'en dis pas plus.
Oui.
Et puis arrive un autre personnage qui est un prêtre défroqué qui, lui, n'était plus là depuis très longtemps, a défroqué au moment de la Révolution. Il avait des raisons, hein, je peux dire qu'il avait eu des raisons, il a failli être guillotiné, donc il a dit c'est terminé tout ça. Et il revient avec une fille. Alors là, ça jase dans le village, évidemment, ça ne plaît pas du tout. Surtout qu'on est à l'époque où l'Église essaye de remettre de l'ordre et ils n'ont pas des prêtres toujours très bien formés, on peut le dire.
Pas encore.
Un peu étroit d'esprit, donc ça ne se passe pas bien du tout. Et ces deux personnages-là, alors surtout le prêtre, hein, va foutre un peu, excusez-moi de l'expression, va mettre un peu la pagaille dans le village. Et puis bon, finalement, ça va un peu se tasser. Mais voilà. Alors, je reviens à l'affaire du message, parce que qui allait vers Charles X, parce que ça, c'est important. Donc le message part bien de Paris, il est emmené par un chevalier intrépide qui traverse.
D'Audrecy,
c'est ça, voilà. Qui traverse des moments un peu compliqués, parce que la forêt, autrefois, c'est pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui, c'était habité. Il y avait des bûcherons qui habitaient la forêt, il y avait des cheminots, comme on dit, puis il y avait des brigands.
Il y avait des brigands.
Voilà. Et lui...
Balzac raconte ça très bien.
Voilà. Alors lui, il tombe sur des brigands. Bon, il arrive à s'en dépêtrer une fois, mais pas la deuxième fois. La seconde fois, parce qu'il n'y aura pas de troisième. Il s'en dépêtre, mais la seconde fois, c'est le pauvre cavalier qui l'accompagnait dans la forêt, puisqu'il la connaissait bien, c'était le jeune Amédée. Oui. Lui, il est coincé par les brigands, et alors lui, il lui arrive des tas de petites histoires, jusqu'à ce qu'il soit ramené au château, et que on retrouve le cadavre du chevalier d'Audrecy, tué par ces soi-disant républicains, qui en fait étaient des brigands et qui n'avaient pas du tout envie de la République. Voilà. Donc lui, il va prendre, Amédée, il va prendre le relais. Il va quand même aller à Rambouillet pour apporter des informations pour Charles X. Et là-bas, il est bien accueilli parce que la duchesse de Berry avait repéré qu'il avait l'âge du duc de Bordeaux à l'époque, oui. Et à Rambouillet, le duc de Bordeaux s'ennuyait pas mal. Donc, le voilà qui arrive à Rambouillet, le voilà qui se retrouve, j'allais dire copain, c'est pas le mot, oui. C'est pas d'époque en tout cas, avec le duc de Bordeaux. Et bon, là, ça se passe bien, il est un peu mal à l'aise parce qu'il connaît pas trop ce monde-là quand même. Et je ne vais pas raconter la suite, hein, mais il se retrouve à l'abandon à Rambouillet, quand toute la famille royale est partie. Et alors là, y a toute l'histoire de comment le faire pour le faire rentrer chez lui. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Alors, je ne sais pas si tu as des questions à me poser.
Si.
Alors, enfin, je t'écoute. Je me tais.
Alors, non, tu ne te tais pas. Quand même, une question qui restera mystérieuse pour nos auditeurs.
Oui.
Le fait que tu rapportes et qui est le secret du notaire, est-ce que tu t'appuies sur quelque chose d'historique?
Alors, oui et non. Oui, parce que...
Je prends des airs mystérieux pour intéresser nos auditeurs.
Oui et non, parce que effectivement, j'ai croisé des gens qui connaissent ce mystère et qui en font partie aujourd'hui, mais qui ne veulent pas en parler.
D'accord.
Ils ne veulent surtout pas en parler, ils ne veulent pas que ça sache. D'abord, ils n'ont pas vraiment de commencement de preuve, mais bon, c'est une tradition familiale avec quand même des assises solides.
D'accord.
Mais ils ne veulent pas en parler, alors je ne vais pas expliquer pourquoi, parce qu'il y a une question religieuse derrière.
Bien sûr.
Voilà. Donc, ils ne veulent pas en parler. Voilà. Quant au prêtre, alors là, je vais être beaucoup plus simple, je vais être beaucoup plus direct. La famille de mon épouse, qui est donc du côté de son père ardennaise, mais par raccro, si je puis dire.
De la principauté de Carignan.
Voilà, dans ce coin-là. Y avait une autre branche qui habite, enfin, où nous sommes toujours, nous avons toujours la maison de famille, où là, il y a eu cette histoire de prêtre marié. Ma femme descend d'un prêtre.
D'un prêtre marié.
Ma prêtre marié.
C'est quelque chose qui,
voilà.
Alors, qui est arrivé de...
Mais oui, alors...
Faut savoir qu'à peu près 50% des prêtres de l'époque, mais ils étaient nombreux. Hein, il y avait à l'époque, il y avait 100 000 prêtres.
Oui,
il y avait, le clergé représentait, avec les moines, plus de 200 000 personnes, 250 000 personnes.
Oui.
Donc c'est normal que...
Non, et puis si tu veux, j'ai eu la chance de posséder ces mémoires.
Oui,
je m'en suis beaucoup inspiré. Et puis ce qui m'a inspiré aussi, c'est un prêtre marié de Barbet de Revilly.
Oui, bien sûr.
Je m'en suis intéressé Et j'ai ces mémoires où il explique exactement pourquoi il en est arrivé là. C'était un prêtre jureur. Hein. Lui, il était assez révolutionnaire. Et n'empêche qu'il a quand même été arrêté, mis en prison, et il attendait la guillotine.
Oui.
Et il a été sauvé in extremis par la chute de Robespierre.
Oui.
Et donc, quand il est rentré chez lui, il a dit, c'est terminé tout ça, je ne veux plus entendre parler, je me marie.
Oui.
Bon. Et le plus curieux de l'histoire, je vais terminer là-dessus, c'est qu'après la Révolution, comme on manquait de prêtres, et qu'il avait perdu sa femme dans une seconde couche.
On lui a proposé.
Oh, il est redevenu prêtre.
Ah bon,
c'est extraordinaire. Mais pas dans son village. Les gens du village n'en voulaient pas. Voilà. Donc je me suis inspiré de lui. Il a laissé un texte très intéressant. C'était un type brillant, vraiment brillant.
Oui, c'est très intéressant.
Voilà.
Et on sent que tu as beaucoup de sources historiques.
Oui. Alors j'ai utilisé énormément de mémoires de l'époque, j'ai lu d'autres bouquins, j'ai utilisé des écrivains de l'époque, j'ai travaillé beaucoup sur la langue pour essayer de reconstituer, alors même si je sais qu'on ne peut pas y arriver complètement, la façon de parler des gens de l'époque, la façon de se vêtir, leur façon de vivre, enfin toutes ces genres de choses, et j'ai choisi effectivement, comme je disais tout à l'heure, mais là je vais me répéter, un rythme très lent. Parce que à l'époque, l'histoire était plus longue.
Comment appelle-t-on ça maintenant? C'est interdit, parce qu'il paraît qu'il faut mettre une pièce dans le cochon devant nous. Mais ça s'appelle des flashbacks, non?
Oui, des flashbacks, oui. Ah ben ça y est, je vais mettre la pièce.
on va dire des retours arrière.
Oui, des retours arrière, exactement.
Des beaucoup de retours arrière, c'est très intéressant.
Alors,
généralement, c'est un peu lassant, au cinéma en particulier. Mais là, en l'occurrence, à chaque fois, tu l'introduis, c'est chaque retour arrière... Il l'introduit de telle façon que ça permet de suivre le même roman.
Voilà. Alors, le livre commence en fait par la fin.
Oui,
parce qu'au début, j'avais mis la fin à la fin.
Bon, oui, c'est ça.
Je me suis dit, ça ne va pas. Donc, j'ai mis la fin au début, où le duc de Bordeaux, qui était devenu comte de Chambord entre-temps, est à Versailles en 73, fait venir... Amédée de Jersey, qui sont bien...
Et c'est exact, cette histoire est exacte, c'est-à-dire, c'est pas Amédée de Jersey, mais moi je peux te dire...
Parce que je sais pas ça.
Il est venu à Versailles.
Oui, il est venu à Versailles dans la maison de Monsieur de Vancey.
Oui, il a logé chez Vancey, il a fait venir ce qu'on appelait à l'époque les chevaux légers.
Oui.
Et malheureusement, je pense que les royalistes n'ont pas été assez fermes avec lui, mais de toute façon, est-ce qu'il aurait eu, lui, la force et le courage? Il fallait faire le coup d'État.
Oui.
On l'attendait pour ça.
Oui. Oui.
Il a été reçu par MacMahon.
MacMahon, oui.
MacMahon n'était là que pour lui préparer la place.
Exactement.
C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avions une présidence de 7 ans.
7 ans.
C'était en fait une législation royaliste,
exactement,
comme le Sénat d'ailleurs.
Oui.
C'est pour ça que la présidence de la République et le Sénat sont les deux institutions qui tiennent dans notre République.
C'est juste.
Parce qu'elles ont été fondées par des royalistes.
C'est juste.
Mais malheureusement, elles ont été détournées.
Ah, complètement.
Complètement détournées. Maintenant, on a un faux roi de ça, maintenant, c'est 5 ans, c'est plus 7 ans.
Oui,
tandis que 7 ans, c'était la moitié d'un... c'était la moitié d'un règne.
Alors, les mauvaises langues ont dit à l'époque qu'on avait choisi 7 ans parce qu'on pensait que dans 7 ans, il serait peut-être mort.
Non, oui, c'est ça. Avec les ans, ça permettrait de passer aux Orléans. Voilà. C'est exact aussi.
Faux, mais...
Et donc, il a été reçu par Macron. Tu le racontes, d'ailleurs, puisque MacMahon, là lui aussi, il a été... il avait une occasion, et puis trois ans après, il s'est fait avoir.
C'est
ce qui était prévisible.
Oui.
Il s'est fait avoir avec Breuil. Enfin, Tu as affaire à des révolutionnaires, le révolutionnaire, il parle comme Mélenchon, c'est-à-dire de toute façon, le bourgeois promet des beaux. Parce que c'est un bourgeois, Mélenchon. Il fait ce qu'ont fait tous les bourgeois, c'est-à-dire on promet 1000 choses au peuple.
Et on fait le contraire, et
surtout on le fait uniquement pour pouvoir gagner les élections, parce que ce n'est que ça l'objectif, ils se sont imaginés qu'ils allaient garder leur leur majorité, et évidemment, bah, ils l'ont perdu, d'abord à l'Assemblée, puis ensuite au Sénat, et à ce moment-là, ils avaient inventé la sénatoria vie pour quelques-uns d'entre eux, en particulier pour les Breuil.
Les Breuil,
En particulier pour les Breuil. Évidemment, on leur a retiré, mais ce n'est qu'assez tardivement qu'on leur a
retiré. Oui, c'est resté longtemps, ça, encore.
C'était une manière de garder... comment appelait-on ça là, dans les familles napoléoniennes en particulier, l'aîné avait droit à tout.
Le droit d'aînesse.
Oui, mais c'était pas le droit d'aînesse.
Non, primogéniture.
Bah, primogéniture. Non, c'était pas la. C'était bien sûr la primogéniture, mais ça s'appelait le droit de une sorte de droit d'apanage quoi, qui faisait que les biens restaient
pour éviter de les morceler.
Mais ça a un nom. Ça va me revenir. Cette histoire, tu la mets aussi au cœur de ton roman. Enfin, pas tout à fait au cœur,
parce que...
Elle est authentique. Hein, j'ai cru que je rencontrerais un maréchal de France.
Oui, j'ai rencontré
un capitaine de gendarmerie.
J'ai fait des recherches pour savoir un peu ce qui s'était passé là, dans cette maison, dans la rue. Je ne me rappelle plus du nom de la rue, mais peu importe. Et donc, je m'étais dit que ça serait bien de les faire se rencontrer, de discuter, qu'ils discutent un peu. Enfin bon. Et puis c'est.
Mais tu restitues bien ce qu'était probablement la psychologie et la pensée de Chambord. Et lui aussi, il a manqué de fermeté.
Oui, je pense qu'il a manqué d'audace
Il a manqué d'audace. Alors, évidemment, le coup était risqué parce qu'il avait en face de lui des Gambetta, des ferries, puis une bande de francs-maçons qui ne pensaient qu'à une chose, c'était de recommencer 93. Mais quand même, il avait pour lui une grande partie de la population française.
Bien sûr.
Il avait encore une majorité parlementaire. Oui.
Mais le fait de s'accrocher au drapeau blanc, c'est quand même une preuve de fermeté, non ?
Oui.
Oui, mais alors est-ce que...
Que c'était pas un prétexte ?
Oui, moi, je me demande, parce que c'était un peu suicidaire, quand même.
Oui.
Parce que je sais pas si l'armée aurait accepté un drapeau blanc. C'est ça le problème, aussi. Alors, on aurait pu trouver plein de solutions.
Plein de solutions, mais bien sûr.
Comme font les Espagnols, il y a les armoiries des Bourbons au milieu, et il y a le drapeau espagnol. Ou bien on aurait pu faire un côté blanc, un côté tricolore. Enfin,
Tout était possible. Alors, je crois qu'on est obligé de recevoir un invité qui s'appelle Monsieur Bobineau. Alors, nous nous taisons pendant quelques instants.
Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous recommençons. Je ne saurais trop insister auprès de nos auditeurs. Écoutez bien Monsieur Bobineau. Parce que je pense que, de fait, avoir une radio libre comme Radio Courtoisie, c'est quelque chose de très rare. Et j'ose dire, même par rapport à d'autres médias dits alternatifs, qui sont intéressants, certes, il ne s'agit pas ici de critiquer qui que ce soit, mais je pense que Radio Courtoisie a une liberté fondamentale, puisque la ressource essentielle de Radio Courtoisie, c'est les dons de ses auditeurs. Donc, chers auditeurs, faites vos dons. Alors, revenons à notre roman. Oui. Vraiment, je le conseille, hein, comme le livre sur le prince de Carignan, je conseille ce roman de Marc Desobliaux, Coup de chaleur à Franche-Terre, juillet 1830, aux éditions L'Harmattan, et vous l'avez pour 23 euros.
C'est 23 euros, c'est pas plus cher que le vôtre.
Je crois que le mien est à 22,90.
Parce que je pense que ça donne une très très bonne idée de ce qu'a été, malheureusement, là aussi, malheureusement, le royalisme au XIXe siècle. Tu sais à quel point je suis maurrassien.
Oui.
On me le reproche suffisamment.
Oui.
Je pense qu'on connaît très mal Maurras.
Oui.
Je suis en revanche un de ceux qui peut dire qu'il le connaît. Et j'allais dire presque à l'intime, puisque je crois avoir découvert ce qui constitue en quelque sorte son secret à lui. Mais ce sera dans d'autres occasions que j'en parlerai.
Oui.
mais le royalisme de la fin du 19e était extrêmement pauvre au point de vue... c'était un attachement extrêmement pauvre au point de vue idée, au point de vue justement que si Chambord avait eu autour de lui des gens avec des convictions extrêmement solides, bon, il y avait bien sûr les chevaux légers, mais les chevaux légers, c'était un peu comme la suite des ultras, c'est-à-dire un retour systématique sur la Révolution, mais il fallait des esprits un peu politiques, savoir s'adapter aux circonstances. Il fallait à la fois savoir s'adapter aux circonstances et en même temps avoir énormément de réalisme dans son objectif et beaucoup de décisions. Ça n'a pas existé, même avec Breuil. Les Breuil, dont on parlait tout à l'heure, et qui étaient des hommes de qualité, incontestablement, des hommes de qualité, mais ils pensaient qu'ils allaient arriver à faire une monarchie plus ou moins libérale et qui aurait, comme en Angleterre, avec facilité, une majorité parlementaire régulière, avec un Sénat qui serait un peu aux ordres. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
J'ai écrit un bouquin, il y a pas mal d'années maintenant, qui s'appelle « La fin du parti royaliste ».
Oui, c'est vrai, je l'ai vu, oui, bien sûr.
Qui traite de la période 1886, alors là on est chez les Orléans, 1893-14 au fond, c'est après le Tausse d'Alger.
Tout s'est perdu à ce moment-là.
Tout s'est perdu à ce moment-là. Le drame, j'ai l'impression, c'est que les royalistes ne se présentaient plus comme des royalistes, mais comme des conservateurs.
Oui. Exactement, c'était l'union conservatrice. Voilà. Et l'union conservatrice, ça a été un échec.
Oui.
En 5 ans, ils ont perdu toutes les élections. C'est évident.
Exactement. Et comme disait le duc d'Orléans, fils de
Alors lui qui avait tout compris.
Oui, conservateur, c'est un mot qui commence mal.
Lui, il avait tout compris. Et déjà son père, parce que le premier comte de Paris... Le premier comte de Paris, lorsqu'est arrivée cette stupidité du ralliement, l'Église qui rallie la République, c'est-à-dire qui rallie le diable. Faut bien se rendre compte. Alors le mot ralliement n'est pas dedans.
Non.
Évidemment, c'était pas l'intention de Léon XIII, c'est certain. Mais c'est traduit comme ça, et c'est devenu ensuite une doctrine.
Oui.
Voilà, il faut rentrer dans la République. Moi, c'est ce qu'on m'expliquait quand j'étais jeune homme dans les bons collèges. Vous entrez dans la République, et alors là, la République... Elle sera merveilleuse, puisque c'est vous qui en serez les membres essentiels, et donc elle rayonnera le christianisme, tu parles. On n'a connu ça pendant un siècle, ça a été à chaque fois un échec, à chaque fois une erreur, le MRP, la démocratie chrétienne, Marc Sangnier, tout ça, ça a été... Et tout ça, c'est issu du ralliement, de ce mauvais choix fait par Léon XIII. Et de quel droit, d'ailleurs, Léon XIII donnait-il des ordres aux catholiques français et aux royalistes français?
C'est juste.
La Tour du Pas disait, écoutez, républicains, ça ne me semble pas comme un gant. Et ça a divisé les royalistes, ça a divisé les catholiques, et de telle sorte qu'ils ont perdu toutes les élections successivement. Mmh. Et pendant ce temps-là, les autres ont continué à avancer, c'est-à-dire interdiction des congrégations, interdiction... c'est tout juste, puis ça aboutit à la rupture du Concordat, dont maintenant tout le monde se félicite. Bon, c'était une absurdité.
À l'époque, c'était une absurdité.
Une absurdité.
Et surtout, ça montrait bien qu'on restait dans cette... persécution religieuse avait commencé alors avant 89 sûrement, mais qui n'a pas cessé depuis.
Mais bien sûr, et c'est la question...
Pas uniquement religieuse, parce que l'affaire des fiches, ça visait plutôt les militaires.
C'était les militaires, là, en effet, mais c'était les militaires catholiques.
Et les magistrats, c'est la même chose.
Oui.
On a renvoyé les magistrats qui étaient catholiques. On les a forcés à démissionner. Mais il y a quand même une affaire religieuse. Pourquoi? Parce que la République est une religion.
Les valeurs de la République, ça vient de la... C'est chrétien, ce truc-là.
On ne peut pas avoir deux religions en même temps. Deux révélations.
Non.
La révélation de 1789 et la révélation de Jésus-Christ, ça ne peut pas cohabiter.
C'est pas possible.
Même si, comme prétendent certains, il y aurait des liens et qu'il y aurait les vertus chrétiennes devenues folles, comme disent certaines. Bon, très bien, mais elles sont devenues folles. Bon, donc elles sont très peu chrétiennes.
Exactement.
Et puis alors revenons à ton roman, parce qu'il est très important, je trouve.
Roman,
nous avons encore une vingtaine de minutes, et intervenez, docteur. Mais c'est intéressant, parce qu'on aborde toutes ces questions, donc savoir ce qu'il aurait fallu faire. Oui, je parlais tout à l'heure du premier comte de Paris, donc celui qui a succédé alors, à Chambord, lui, il a refusé le ralliement.
Voilà,
il a carrément dit au pape, vous vous occupez de vos affaires, et moi je m'occupe de mes affaires.
Oui. Mais il en est mort de chagrin, ça l'a tué. Et alors la deuxième grosse erreur qui a eu lieu avant, c'était l'affaire Boulanger.
Oui,
qu'est-ce que les royalistes ont été faire là-dedans, parce que Boulanger, il a roulé tout le monde dans la famille.
Bien sûr,
je ne comprends pas ce qu'on a été faire là-dedans.
Le général de Carnaval, républicain jusqu'au bout des ongles.
Et puis ça a provoqué le comte de Paris, Philippe comte de Paris, avait réussi à réunir tous les royalistes autour de lui. Oui. Mais l'affaire de Boulanger... Les légitimistes sont partis d'un côté, les orléanistes sont partis de l'autre.
Et lui, sous l'influence de la fameuse duchesse
d'Uzès,
il s'est laissé avoir parce que la duchesse d'Uzès était persuadée que le général allait renverser la République.
Oui, elle était un peu cinglée.
Remarquez, ça a failli arriver, comme il a dit.
Mais lui,
il avait eu plus de fermeté.
Ben voilà, il n'a pas osé. Il n'a pas osé.
C'était hautement envisageable, je crois que l'Assemblée était déjà sur le départ.
Oui. Mais il n'a pas osé. Il est allé mort comment?
L'hypothèse de la duchesse d'Uzès n'était pas complètement absurde.
Mais Boulanger, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait une république
à la De Gaulle, autoritaire.
Qu'est-ce qu'il aurait fait au profit de Boulanger?
Oui, bah bien sûr.
On ne voit pas Boulanger se renoncer et se.
Au profit de Madame de Bonin.
Se retirer.
Ah oui, c'est vrai, oui.
C'est la grande erreur de dire de tous les gens qui s'imaginent qu'on va arriver un jour ou l'autre à réussir dans ce cadre républicain à faire une véritable réaction. On ne peut pas.
C'est comme la Ve République. Le général de Gaulle, quand il a mis en place les institutions de la Ve République, je ne sais pas si il a compris que ça pourrait pas tenir, ou il a fait une république taillée pour lui. Parce que
les seuls articles qui sont d'ailleurs très bien rédigés et qui sont clairs, c'est les 15 articles, les 14 articles qui concernent la présidence de la République.
Oui.
Et là, tout est dit. Alors, inutile de dire que le chef de l'État ne répond, mais absolument pas, à l'heure actuelle, ne répond absolument pas aux définitions. Les définitions sont excellentes. Il doit être indépendant. Il doit défendre l'intégrité du territoire, la souveraineté nationale, et il doit être un arbitre.
Oui.
Bon, maintenant, on n'a pas du tout un arbitre.
On a
un chef de parti, c'est pas la même chose. Oui. On a un gars qui veut prendre le pouvoir pour lui et pour ses copains. Bon, et ce n'est que ça. Oui. Bon, il faut arrêter de raconter des histoires. J'ai un contrat avec la France.
Oui.
Enfin, s'imaginer qu'un type puisse avoir un contrat avec la France... Oui. Alors, sauf à s'appeler Bonaparte, parce que Bonaparte le pensait.
C'était autre chose.
Éventuellement De Gaulle,
mais sinon, pour être arbitre, à mon avis, il ne faut pas être élu au suffrage universel.
René
Coty pouvait être un arbitre parce qu'il était élu.
Oui, exactement.
Parfaitement.
On critique beaucoup la quatrième, qui était
évidemment
infiniment critiquable.
Nos initiales sont ici.
Mais
c'est vrai.
Mais le chef de l'État avait plus le sens de la composition.
Oui.
Quand il était pas nul, parce qu'évidemment, avec le brin.
Qui avait
comme disait De Gaulle, encore eût-il fallu qu'il y eût un État et qu'il y eût un chef.
Oui, quand je pense qu'il est venu réclamer son poste après la guerre.
Il est venu dire, c'est
moi le président.
Bien sûr, et pourquoi pas.
Pour revenir à De Gaulle. En 1965, il a compris son malheur, parce que les partis ont repris tous le dessus.
Tous.
Et lui,
une
c'était terminé.
Une fois qu'il a liquidé l'Algérie, les partis ont dit, maintenant, t'as fait ton devoir, nous, on n'y arrivait pas.
Voilà.
Toi, tu as écrasé l'armée, ce qui était ce qu'on te demandait. Oui. Tu as écrasé la magistrature et tu en as fait des hommes aux ordres, qui condamnent et qui tuent sur ta demande. Et quand ils ne le font pas, on les destitue et on en institue une autre juridiction.
Oui.
Une fois qu'il a fait... Et puisqu'on oublie complètement, parce que maintenant, on prétend que De Gaulle a protégé la France de l'Europe, mais c'est lui qui a accepté le traité de Rome et qui l'a rendu réalisable.
Oui.
Même l'affaire du compromis de Luxembourg, même l'affaire de la chaise vide, c'est comme ça qu'il a réussi à instaurer véritablement l'Europe en instaurant la PAC, la politique agricole commune, qui de fait était à l'époque complètement favorable à la France.
Oui.
mais ça rendait la France dépendante de Bruxelles, enfin, de la décision européenne.
Et puis, ce que moi, j'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps, en fait. Toutes les grandes réalisations du gaullisme, enfin alors les premières fusées, la nucléaire et tout, mais c'était la quatrième.
C'est la quatrième, absolument.
Et lui, il a tout récupéré derrière.
Tout récupéré, hein. Et c'est vrai que c'est l'avantage du gouvernement unique, du gouvernement monarchique quel qu'il soit, c'est que il y a une décision, et de ce point de vue-là, il a obtenu des résultats avec beaucoup plus rapide. Parce que sous la quatrième, moi j'en sais un petit peu quelque chose parce que j'ai étudié l'affaire de près, il est tout à fait vrai qu'une partie de ce qui se faisait comme travaux préparatoires était dissimulé, y compris dans les budgets, pour que les Américains ni les Russes ne puissent le savoir. Tandis qu'avec De Gaulle, De Gaulle a dit que c'est comme ça, c'est comme ça, et... De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a amélioré les choses.
Mais j'avais, quand j'étais étudiant, je m'excuse de ramener des années lointaines en arrière, j'avais un professeur de droit constitutionnel, je me rappelle, je ne sais plus qui c'était, qui nous disait toujours, vous savez, la seule vraie monarchie en Europe, c'est la France.
Oui.
Alors c'est une monarchie élective, c'est vrai, mais le roi a des pouvoirs.
Oui.
Alors, autrement, c'est bizarre ce truc. Et puis après réflexion, je me dis, c'est pas fou, hein. C'est pas faux.
Hein. Ah, des questions. Nous avons des auditeurs qui se font connaître. Merci, bonsoir. Merci pour cette émission très intéressante. Mais pourquoi, à votre avis, Charles Maurras a choisi d'apporter son soutien au maréchal Pétain plutôt que de rester sur un retour du roi? Merci, bien courtoisement. Alors, de fait, c'est une question qui se pose très difficilement.
Qui n'a pas beaucoup de rapport avec nos deux livres.
Non, ça n'a pas beaucoup de rapport avec vos livres. Mais on va revenir sur vos livres là, pour les dernières 10 minutes.
Oui.
Mais oui. Mais le maréchal était à l'époque, il faut bien se rendre compte, celui qui apparaissait comme le garant. Le garant de l'unité nationale.
De toute façon, dans toutes nos familles, je me suis de le dire,
bien sûr.
On était pour le maréchal, au moins au début. Après, ça a changé.
Oui.
Je me rappelle d'avoir vidé une maison de famille à Senlis dans les années 70. Dans un débarras, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Le portrait du maréchal qui était posé dans un coin.
Il y en avait dans toutes les familles.
Partout. Voilà.
Partout.
Donc forcément, il fallait bien se raccrocher à quelque chose.
Ça a été le chef. Alors, il avait, malheureusement, il était très âgé. Il y a une bande de gens qui se sont emparés du pouvoir autour de lui. Mais lui-même n'a jamais, dans le fond, réellement voulu, même s'il a employé le mot, la collaboration. En fait, pour lui, c'était tromper l'ennemi. Il fallait tromper l'ennemi le plus longtemps possible. Gagner du temps jusqu'à ce que les Américains rentrent dans la danse. Comme en 1917. Oui. Voilà, c'était son idée, je pense.
Si je peux me permettre à propos de Maurras, je pense qu'effectivement, il a choisi, alors, tu sais mieux ça que moi, mais il a choisi une ligne politique qui était un peu intenable.
Oui.
C'est-à-dire ni allemand, ni anglais.
Oui, c'est ça. Et alors, les gens ont dit... Voilà.
Mais
doctrinalement, ça se tenait.
Mais
ça se tenait doctrinalement.
Oui. Mais...
Et puis Maurras, c'est autre chose. Il ne faut pas ramener Maurras perpétuellement à la question de Vichy.
C'est tout le temps. Mais de toute façon, c'est ce que disent toutes les radios.
Bien sûr, parce que ça évite d'avoir
médias.
À traiter le vrai Maurras, et dont j'ai eu l'occasion de parler à Radio Courtoisie un petit peu. Et donc, j'espère avoir l'occasion de reparler véritablement, en particulier dans ses œuvres un peu mystérieuses, dans lesquelles il a expliqué que la raison pour laquelle il entreprenait son œuvre. Alors, revenons à vos romans, chers amis. Docteur, pouvez-vous dire encore un petit mot sur notre prince de Carignan ou tirer une leçon de son histoire et de sa vie?
Il n'était pas beaucoup donneur de leçons, mais...
c'est sûr.
Mais
il n'avait pas cette prétention.
Mais il était, effectivement, comme vous l'avez dit, très représentatif d'une aristocratie, surtout des princes étrangers. Il y avait... la France s'enorgueillissait d'avoir à sa cour des princes étrangers, essentiellement des Lorrains ou des Savoyards, mais enfin, les électeurs de Saxe, par exemple, sont beaucoup venus à la cour
bien
de l'Angleterre.
Bien sûr.
Et c'était une façon de briller davantage. Les gens venaient à Versailles pour admirer, et ces princes étrangers étaient... Enfin, les ancêtres de princes de Carignan ont été... Il y a eu des périodes où ils ont été... leurs biens ont été confisqués parce qu'ils étaient mal comportés vis-à-vis de la France. Mais enfin, dans l'ensemble, ils ont été très choyés, comme beaucoup d'autres princes, parce que ça faisait rutiler un peu la monarchie,
oui,
d'avoir autour d'elle des satellites,
oui,
de princes moins importants, mais qui venaient se faire briller à la cour de France. C'est particulièrement vrai à la cour de Lorraine. Au XVIe siècle, il y a eu les Guises.
Oui.
Au XVIIIe, il y a eu les Choiseul. Mais c'est un peu moins brillant. Mais c'était quand même toujours des gens qui venaient profiter. Et alors lui, effectivement, a beaucoup utilisé sa qualité de prince du sang pour ses affaires. Et je sais qu'il en avait beaucoup. Mais il avait à la fois la morgue, encore que pas excessive, mais la conduite... des domestiques en abondance, des chevaux, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais il avait une écurie qui était une des plus belles de Paris.
Ah oui.
Oui, il avait une soixantaine de chevaux, des alezans et des trucs extraordinaires. Et bon, enfin, il vivait sur un très grand train et il était, à mon avis, représentatif de sa caste et de son siècle.
Oui, très vrai. C'est très, très vrai. Quand on lit votre livre, on se rend compte de ça. Et on n'imagine pas à quel point ça faisait vivre une foultitude de gens.
Il ne les payait pas, mais sinon, effectivement, il y avait des graveurs, des épingliers.
Et une domesticité.
Une domesticité extraordinaire qui ne doit pas être payée très cher, à mon avis.
Oui.
Sauf peut-être quelques palefreniers. Mais enfin,
oui, mais enfin, les gens vivaient. Ils étaient nourris, sinon ils seraient partis. Ils étaient nourris, ils étaient logés.
Logés, blanchis, nourris.
Oui, c'est ça.
Pas très bien payés, probablement. Oui. Enfin, ils devaient aussi faucher un petit peu à l'occasion. Mais oui, effectivement, il a fait vivre. Mais rien qu'à l'intérieur de son hôtel, il y avait une petite centaine de domestiques.
Oui.
Enfin, domestiques au sens large, parce que j'entends là-dedans les musiciens, les ébénistes, les épingliers. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient chez lui, à demeure, y compris la peintre Rosa Carrera, qui est passée à Paris, habitait pendant...
À l'hôtel de Soissons.
À l'hôtel de Soissons. Oui. Elle en parle pas très gentiment. Enfin, de l'hôtel, oui, mais de l'hôtelier, moins. mais enfin, pour dire qu'il recevait, enfin, il servait d'hôte à des gens importants, surtout des artistes.
À quoi ressemblait cet hôtel de Soissons? Est-ce qu'on a...
On a des gravures.
On a des gravures.
J'en ai même pas dans mon livre, je crois. J'ai juste la...
Non, vous donnez les généalogies, vous donnez des quelques... Vous donnez les jardins, enfin, oui, la disposition.
Absolument. C'était un très grand... Il y avait quatre corps de logis, je crois, avec un immense jardin au centre. J'ai oublié, je ne vais pas vous dire de bêtises, la superficie. Mais enfin, quand ils vendaient une partie, c'était le quart de l'hôtel, et c'était déjà... Vous pouvez construire une
dizaine de maisons. C'était dans ce qui correspond au premier arrondissement de Paris, à peu près.
Pas tout à fait avant, mais enfin...
Oui, non, mais ça correspond.
Une partie du quartier des Halles.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'était sur le quartier des Halles, à peu près, oui. Oui,
d'accord. Donc, chers amis, Jean-Fred Varlin, Le Prince de Carignan, aux éditions Amaltée. Et maintenant, Marc... dis-nous quelques mots. Tu as 5 minutes.
Non, dans ce livre aussi, je me suis amusé, on peut dire ça comme ça, à faire rentrer des personnages qui sortent de la comédie humaine.
Oui.
J'ai cité des gens comme ça qui n'ont pas eu d'existence, en fait.
Oui.
Mais je les ai mis dans l'histoire, ça m'a amusé de faire rentrer ça. Bon, il y a quelques petits clins d'œil, mais ça, il faut vraiment que les gens du village des Ménus le lisent pour les voir, parce qu'ils les trouveront.
D'accord.
Mais non, c'est... Je suis content d'avoir fait ce livre. En plus, ça fait longtemps que je te dis que je travaillais dessus. J'avais fait une première version qui était très courte, mais que j'ai donc...
Tu as étoffé.
Étoffé, voilà, merci du mot, que j'ai beaucoup étoffé. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions, c'est volontaire.
Oui.
J'ai parlé tout à l'heure en disant que la forêt était un personnage, et effectivement, c'est un personnage.
Le jeune Amédée aime beaucoup la forêt.
On voit que tu la connais, toi aussi.
Ah oui, je la connais par cœur. J'ai passé mon enfance en bordure de cette forêt, je la connais par cœur. Et donc, je l'adore. Enfin, j'y vais plus beaucoup, mais je l'adore. Et Amédée, il est pareil. Dormir sur des feuilles mortes l'été, qui sont bien sèches, avec la mousse un peu dure dessous, à l'ombre, avec son cheval qui broute à côté, pour lui, c'est un bonheur total, quoi.
Écoute, on bramait le cerf.
Oui, mais là, on est en juillet, le cerf ne brame pas encore. Ça vient un peu plus tard, mais bon. Mais oui, exactement. Et puis le monde des chasses à cours aussi, que j'ai un peu connu, ça existe toujours en forêt de Rambouillet, mais bon, c'est décrié maintenant.
Maintenant, oui, c'est très mal vu.
C'est très mal vu, ok.
Ce qui est absurde, parce que c'est un art.
C'est un art. Alors, effectivement, en vieillissant, je me montre peut-être plus compatissant vis-à-vis de ces pauvres cerfs, en même temps, comme tu dis, c'est un art, c'est beau. Et puis il ne faut pas exagérer.
Et puis on laisse une chance une chance au gibier.
Exactement.
Il y a des chasses qui sont beaucoup plus meurtrières.
Mais bien sûr.
Et où on ne laisse pratiquement aucune chance au gibier. Voilà.
Et quand
le gibier n'est pas amené sur place.
Voilà. Ah oui,
dans des cages.
Je crois que ça se fait beaucoup à Rambouillet, justement.
Mais les tirer, c'est fini. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus.
Le président de la République n'aime pas la chasse.
Non, il n'aime pas la chasse. Il n'aime pas grand-chose. Enfin, bon.
Il n'aime pas grand-chose.
Non. Il n'aime surtout pas beaucoup la France.
Non, du tout. Même. Il déteste la France et les Français.
Et puis, dans les chasses à cours, moi, j'ai parlé plusieurs fois avec des gens de chasse. En fait, ils prennent très peu de cerfs dans l'année. Hein. On croit qu'ils prennent à chaque fois, mais ce n'est pas vrai. Ils ont un tableau qui est très réduit. Parce que ces animaux-là, ça a l'air de rien, mais ils sont malins comme des singes, j'allais dire. C'est pas
l'expression. Et puis surtout, ils sont limités.
Oui, ils n'ont pas le droit d'en prendre plus que.
Alors maintenant, on s'aperçoit qu'il y a trop de sangliers.
Alors maintenant, il y a trop de sangliers, il y a trop de chevreuils.
On fait des battues.
Ils tirent des faisans,
pour abattre.
Mais je me rappelle quand j'étais enfant en forêt de Rambouillet. Il n'y avait plus qu'un couple de chevreuils, je me rappelle très bien de ça. On ne le voyait pas. Et il n'y avait quasiment plus de sangliers. Il restait des cerfs et des biches.
Et là, maintenant ?
Et bien maintenant, il y en a partout.
Partout.
Partout. Voilà.
Et ils démolissent tout.
Et ils cassent tout. Ils cassent tout. Exactement.
Alors, pour revenir à ton livre, je pense que tu donnes également une extrêmement bonne idée de ce qu'étaient, on va dire, les familles traditionnelles au cours du 19e siècle.
Oui.
Et on reconnaît, pour moi qui connais un petit peu.
C'est-à-dire que dans ces familles.
Et tu montres très bien comment leur fidélité a été constamment mise à l'épreuve dans des événements sur lesquels ils n'avaient aucune maîtrise.
Aucune prise.
C'est la nouveauté de l'Action française, c'est de former des esprits. Pour qu'un jour, peut-être, on puisse avoir prise sur les événements. Et encore, c'est peut-être. Parce que s'imaginer qu'on peut manipuler les événements politiques...
Aujourd'hui, ça devient compliqué.
Aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Un Bonaparte, oui. Un De Gaulle, oui. Mais enfin, il faut des personnalités un peu exceptionnelles.
Et on les voit pas.
Et pas forcément, d'ailleurs, on les flatte beaucoup après ou pendant, mais... en réalité, c'est quand même des grands destructeurs. Hein. La vie humaine ne compte pas pour eux. Ils ont leurs objectifs, qui est leur pouvoir. Alors évidemment, comme ils ont une certaine intelligence du pouvoir, évidemment, ils améliorent les structures.
Non, mais à cette époque-là, c'est vrai que, bon, ça je crois que je le montre dans le livre, les nouvelles, c'est la diligence qui les amène.
Oui, c'est ça.
Alors quand la diligence ne passe plus, bah, il n'y a plus de nouvelles.
Oui, c'est ça.
Et puis ça arrive en retard. Et puis alors il y a aussi cet aspect sur lequel j'ai beaucoup insisté, mais qui forcément est évident, c'est que les gens du château, ils ont leur domesticité, comme vous disiez, c'est une famille.
Voilà,
c'est une famille.
Les domestiques font d'une certaine manière partie de la famille.
Exactement.
Aussi pour les raisons particulières que tu donnes.
Oui. On les respecte sans problème. Il n'y a pas de. Ah, il y a bien dû avoir des familles hautaines.
Oui.
Mais la plupart non.
Non. Non.
Il y avait une relation avec les gens du voisinage.
Non.
Très facile.
Dans l'aristocratie française, non.
Mais c'est pas l'aristocratie de Paris, c'est sûr. C'est pas pareil. C'est pas la Faubourg Saint-Germain. C'est autre chose.
C'est autre chose. Oui, bien sûr.
Alors peut-être que si je le dis dans le livre, d'ailleurs, si ces gens-là avaient voulu aller un peu à Paris pour voir donner des idées, essayer d'inciter.
Oui.
Bon, peut-être que ça serait passé autrement, mais ils voulaient pas. Non,
ils ne voulaient pas. C'est, puis c'est, ils n'y pensaient même pas.
Non, je pense
parce que c'était pas des gens de pouvoir.
Voilà, c'était pas leur place.
Ils avaient une légitimité dans leur village, mais pas ils ne pensaient pas à au-delà.
Non, non.
Il faut être un Gambetta ou un Macron pour s'imaginer qu'il est fait pour jouer un rôle dans toute l'histoire du monde et que ça sera l'événement le plus important de toute l'histoire du monde. Laissant de loin derrière lui Jules César et je ne parle pas de Jésus-Christ. Non, mais c'est ça. C'est la folie de ce... Oui. De notre régime, d'ailleurs.
Ça fait toujours rire, d'ailleurs, quand on nous parle à la radio ou la télé d'un événement qui va être historique.
Oui.
Je me dis, mais attends, de quoi il parle, là ?
Il va y avoir 15 gars qui vont prétendre.
Oui.
15 gars qui vont prétendre. Enfin, c'est incroyable. C'est 15 gars qui pensent que la France est faite pour eux et qu'ils sont faits pour la France. Enfin, quand on y réfléchit, c'est totalement grotesque.
C'est grotesque, mais c'est dramatique.
C'est dramatique.
C'est dramatique.
Ça ne peut aboutir qu'à de la macronie. Oui.
Les hommes providentiels dont vous parlez, que ce soit Bonaparte ou De Gaulle, sont souvent des militaires.
Oui,
oui.
Bien
alors,
sûr.
Il y a eu Clémenceau,
qui
a joué un rôle important, bon, même si le personnage est
très peu sympathique.
On n'aime pas. Quoi.
Non, très peu sympathique.
Mais pas très sympathique.
Lui, il tirait sur le peuple, sans aucun problème.
Ah oui, il avait pas de problème.
Comme il était républicain, il pouvait se le permettre. Il a tiré sur les paysans, il a tiré sur les viticulteurs, il a tiré sur les ouvriers à Draveil, enfin ça ne gênait absolument pas.
C'est ce que disait Louis-Philippe au moment des soulèvements de juin 1948, il a dit la République a de la chance, elle peut tirer sur le peuple.
Exactement.
Moi je ne pouvais pas.
Ce qu'elle a fait d'ailleurs 4 mois après.
Oui.
C'est Cavaignac qui a suscité la réflexion de Louis-Philippe.
Oui. Le bon prophète, puisque 4 mois après, c'est arrivé.
Exactement, et il ne l'a pas fait, lui. Bon.
Alors, nous arrivons vers la fin.
Oui,
chers amis, je vous remercie. Je remercie nos auditeurs.
Merci.
Coup de chaleur à Franche-Terre, juillet 1830, de Marc des Obliots, aux éditions de l'Harmattan. Le prince de Carignan par le docteur Jean-Fred Varlin aux éditions Amalté. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Réaction, dirigé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 24 février 2026, de 21h30 à 23h, et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.